La vérité qui libère. La vérité qui libère.
La vérité qui libère.
C'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. C'est aussi votre émission de la solution, car pour tous vos problèmes, la solution se trouve uniquement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Vous qui aimez la vérité biblique, vous qui cherchez la vérité biblique, et vous qui cherchez la vraie délivrance, connectez-vous sur cette émission, la vérité qui libère, et recevez votre délivrance et votre liberté totale au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Connectez-vous et soyez comblés au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire, les honneurs et les acclamations reviennent uniquement au Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Amen.
Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, fidèles auditrices, recevez où que vous soyez nos sincères et chaleureuses salutations. C'est dans le merveilleux, magnifique, glorieux, tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons et que nous vous bénissons également. Comme vous l'avez suivi, vous ne vous êtes pas du tout trompé. Vous êtes Dynamis FM et l'émission c'est La Vérité qui Libère. À la technique, Ecclésiaste Esso, celui qui manipule les différents boutons derrière la console technique, et il y a la supervision Moïse Kanke. Derrière ce micro, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ Rodrigue Genji, très très ravi de nous retrouver dans le cadre de cette émission La Vérité qui Libère, ce magnifique et précieux rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Nous allons prier le Seigneur, Seigneur Jésus, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Alpha et l'Oméga. Sois béni pour ton souffle de vie, sois béni pour tes diverses grâces que tu déverses sur nous jour après jour. Seigneur, tu nous as encore compté parmi les vivants et tu nous admets dans ta sainte présence en ce moment, au travers de ta très sainte et bonne parole. Merci infiniment. Seigneur, nous te consacrons ce moment. Ces multitudes qui sont à l'écoute, bénis-les au travers de ta parole. Seigneur, sanctifie ce moment. Ta parole, elle est la vérité. Que les cœurs soient touchés d'une manière ou de l'autre et que les multitudes se tournent vers toi et que les chaînes tombent. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es fidèle. Ta parole est également vivante. Tu béniras certainement les uns et les autres qui vont écouter avec un cœur bien disposé. Que toute la gloire, les honneurs, les acclamations, la magnificence, le règne et la gloire te reviennent à toi seul, maintenant et pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons tout simplement nous tourner vers les Saintes Écritures. Il n'y a pas longtemps, nous avons commencé un enseignement concernant les prophéties bibliques. Lorsque je parle des prophéties ici, c'est-à-dire ce que Dieu a dit concernant notre futur. Parce que la Bible est également un livre prophétique. Et nous avons commencé par parler de la grande tribulation. Cette période vraiment terrible, difficile, que le monde va connaître pour avoir tout simplement rejeté le Christ. Lorsque Christ reviendra enlever son église et que ces personnes qui ont raté l'enlèvement vont vraiment subir toutes sortes de choses sur la terre. Nous avons vu beaucoup de choses. C'est vrai que compte tenu du temps, ce n'est pas toujours évident d'entrer dans tous les détails, mais l'essentiel a été dit, à savoir que après l'enlèvement de l'Église sur la terre, il y aura le règne physique du diable sur la terre. Et le diable va séduire presque toute l'humanité entière au travers de certains instruments qu'il va utiliser, entre autres l'antichrist. Oui, et nous avons vu également que la grande tribulation, cette période de grande souffrance, c'est également une période de colère. Parce que le diable sera en colère contre toute personne qui va essayer de s'opposer à son règne. Les hommes seront en colère à cause de ce que le diable va les faire subir sur la terre. Et Dieu également sera en colère parce que la terre vraiment va être carrément sens dessus dessous. Au point où le Seigneur Jésus-Christ sera obligé de revenir vraiment juger les nations et établir son règne physique sur la terre, c'est ce que la Bible nous appelle le millénium. Si Dieu le permet, nous allons y revenir plus tard. Maintenant, sans plus tarder, bien sûr, par rapport à la grande tribulation, les Juifs vont également beaucoup souffrir parce que le diable va carrément décider de les exterminer sur toute la surface de la terre. Et on comprend pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne devait être sauvé. Mais à cause de cette minorité juive qui va se repentir et reconnaître que Jésus-Christ qu'ils ont rejeté était véritablement le Messie, le Seigneur va venir à leur secours. Voilà. Et sans plus tarder, maintenant nous allons faire un petit pas en arrière et parler maintenant de l'enlèvement. Mais j'ai jugé nécessaire, avant de nous entretenir sur l'enlèvement de l'Église, puisque nous sommes en train de parler des prophéties bibliques, de ce qui va s'accomplir sur la terre d'un moment à l'autre, pour que vous puissiez croire que ce que nous allons dire, ou bien ce que nous avons déjà commencé à dire, que tout cela va s'accomplir, nous allons faire un petit pas en arrière. Puisque, lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, c'est le Christ qui revient enlever son église, son épouse. Cette église qui n'est tout simplement que l'ensemble de toutes ces personnes qui se sont repenties sincèrement de leurs péchés, qui se sont converties et qui ont vraiment confessé le Seigneur Jésus-Christ de leur bouche et qui l'ont accepté dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'église. Et puisque le Seigneur Jésus-Christ, après l'enlèvement, va également revenir établir son règne sur la terre, puisqu'il s'agit de Jésus qui est au centre de tout cela, nous allons faire un petit pas en arrière par rapport à sa première venue. Parce que Jésus-Christ a encore deux venues sur la terre. Oui, la deuxième venue, c'est pour enlever son église. Et il n'y a que les chrétiens nés de nouveau qui sont concernés. Et la troisième venue, c'est pour venir juger les nations, juger ceux qui seront sur la terre, qui l'ont rejeté et établi son règne. Mais nous allons nous intéresser un tout petit peu à sa première venue. Et nous allons nous rendre tout simplement compte que, avant que Christ ne vienne sur la terre, cette première venue avait également été annoncée de façon prophétique. Oui. Et nous allons tout simplement nous pencher vers les saintes écritures. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc c'est important déjà de voir, est-ce que avant que Christ ne vienne, est-ce que ça avait été annoncé? Comme nous sommes en train d'annoncer sa deuxième venue et même sa troisième venue et tous les autres enseignements que nous allons donner, que ce soit concernant le millénium, concernant le tribunal de Christ, concernant le jugement dernier et les temps de feu. Parfois, les gens peuvent écouter certaines choses et ne pas prêter vraiment attention en se disant que c'est du n'importe quoi. Non. Voilà pourquoi nous allons rentrer en arrière. Nous allons rentrer dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et là, nous allons voir que avant que Christ ne vienne, tout cela avait été également annoncé. Il y a tellement à dire, je ne sais pas si nous aurons l'opportunité vraiment de lire ces multitudes de versets qui concernent la première venue de Christ. Nous allons quand même essayer et nous osons croire que Dieu, par sa grâce et son esprit, nous aidera à vraiment dire l'essentiel rapidement. Vous êtes encouragés à avoir un stylo et sur quoi noter, parce que ce que nous sommes en train de dire est très très important. Parce que les enseignements sont éternels, parce que les enseignements ne varient pas et ne changent pas. Donc, Rêvez et après prenez tout votre temps pour vérifier et que votre foi soit fondée sur les saintes écritures. D'ici là, vous allez également recevoir les numéros qui vous permettent de réagir par SMS. Oui, rapidement, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Nous sommes en train de nous intéresser maintenant à ces versets prophétiques qui annonçaient la première venue du Seigneur Jésus. Nous commençons par Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Il est écrit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Manuel. Voilà. Avant que Christ ne vienne sur la terre comme être humain, Ésaïe avait déjà annoncé que une Vierge va être enceinte. Et Ésaïe a vécu à peu près 700 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Donc, il a annoncé. Et dans cette annonce prophétique, il dit que c'est une vierge qui va être enceinte. Ce qui est humainement parlant impossible. Comment est-ce que une vierge qui ne connaît pas un homme peut devenir enceinte? Certainement, à son époque, les gens devaient se moquer de lui en disant qu'il racontait du n'importe quoi. Parce qu'il a annoncé ce qui est humainement et scientifiquement et médicalement impossible. À savoir qu'une vierge devienne enceinte sans avoir eu des relations sexuelles avec un homme. Et cela, nous pouvons voir son accomplissement. Tout le monde, du moins toute personne qui s'intéresse un tout petit peu à la Bible, sait que ça s'est réalisé. Mais nous allons lire pour ceux-là qui ne le savent pas son accomplissement dans le Nouveau Testament, plus de 700 ans plus tard. Si nous lisons par exemple dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre à partir du verset 18, il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Voilà, pour raccourci, vous pouvez lire à partir du verset 21, il est écrit: elle enfanta un fils et il lui donna le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Manuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Vous voyez, amen. Donc avant que Jésus ne soit même conçu, cela avait été annoncé. Et c'est par le Saint-Esprit. Et nous allons lis dans le livre du prophète Michée. Oui, Michée, chapitre 5, le premier verset, il est écrit ceci: et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez, voilà un autre prophète, Michée, qui dit dans quelle ville le Messie devait naître. Dans quelle ville et même dans quelle tribu en Israël. Donc, vous voyez que Dieu, ou bien du moins c'est la Bible, c'est le seul livre qui parle parfois avec une exactitude étonnante. Et Jésus, nous savons que il est sorti de Juda et de Bethléem. Voilà. Vous pouvez lire cela dans l'évangile de Matthieu pour confirmer. Si je peux lire pour vous, nous sommes dans Matthieu chapitre 2, le verset 6. Je suis en train de courir après le temps parce qu'il y a tellement à dire. Mais c'est important parce qu'il faut que votre foi soit fondée sur ce qui sera dit concernant les textes prophétiques, c'est-à-dire ce qui va arriver sur la terre d'un moment à l'autre. Il est écrit ici dans Matthieu chapitre 2, le verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, qui paîtra Israël, mon peuple. Voilà l'accomplissement de cette prophétie. Et si nous lisons également dans le livre de Osée chapitre 11, le premier verset, nous sommes en train d'évoluer progressivement. Si vous êtes vigilant, à partir de la conception du Seigneur Jésus, la tribu dans laquelle il devait sortir et également la ville où il devait naître. Et nous allons également, par rapport à son enfance, lire quelque chose dans Osée chapitre 11, le premier verset pour ceux qui notent. Et je me charge de lire pour nous tous. Il est écrit ceci. Oui, Osée chapitre 11. Je lis ceci pour nous tous. Le premier verset. Je lis. J'appellerai mon fils hors d'Égypte. Voilà. C'est un verset prophétique qui dit que Dieu devait appeler son fils hors d'Égypte. Il s'agit ici de l'enfance du Seigneur Jésus qui a été annoncée par le prophète Osée. Et nous allons lire rapidement son accomplissement dans le livre. Pour ne pas trop nous balader dans les évangiles, nous allons rester dans Matthieu. L'évangile selon Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13, il est écrit ceci. Je me charge de lire pour nous tous. Lorsqu'il fut reparti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Vous voyez l'accomplissement de vraiment la vie de Jésus, même pendant qu'il était encore enfant. Et nous allons continuer. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, le verset 9. Maintenant, nous allons nous intéresser un tout petit peu à la vie du Seigneur Jésus-Christ, particulièrement sa vie morale. Il est écrit ceci. Ésaïe 53, le verset 9. Il est écrit, la deuxième partie. Quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Voilà, la Bible est en train de nous parler ici de la vie morale du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. La Bible nous dit que l'une des choses qui a caractérisé Jésus-Christ, c'est que quoi? Il n'a jamais commis de violence et il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Donc, autrement dit, c'est le seul être vivant qui n'a jamais péché, oui, dans tout l'univers et qui a marché sur cette planète. Alléluia. Et l'apôtre Pierre va le reconnaître dans sa lettre. Nous pouvons lire dans la première lettre de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2, le verset 22. Il est écrit, le verset 22 nous dit ceci, lui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point commis de péché, alléluia, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, alléluia. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Ça, c'est le verset 23. Maltraité ne faisait point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Donc, Jésus-Christ était parfait. Il est parfait. Voilà, alléluia. Et il ne ment point. Il n'y a point de fraude dans sa bouche. Voilà le pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle, il faut vraiment prêter attention. Et nous allons lire dans le Psaume 41, le verset 10. Si vous venez de vous joindre à nous, l'émission c'est La Vérité qui Libère. Nous sommes en train de nous intéresser à certains textes prophétiques concernant le futur. Mais avant cela, j'ai décidé de faire un petit pas en arrière pour vous montrer que Jésus-Christ qui va également revenir, sa première venue avait également été annoncée par beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament. Et je vous donne ces versets pour que votre foi soit fondée, pour que vous ne doutiez point en ce qui concerne le futur, lorsque nous allons entrer vraiment dans ces enseignements concernant notre futur, ces versets prophétiques. Oui, je disais que nous allons lire également dans le Psaume 41, le verset 10. Il est écrit ceci, je lis pour nous tous. Celui-là même avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Maintenant, nous sommes en train de nous avancer progressivement vers la fin de la mission du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ici, là, la Bible nous dit que celui-là qui mangeait son pain, qui avait sa confiance, va lever le talon contre lui. Il s'agit ici de Judas Iscariote, son trésorier, celui qui gardait même l'argent, lui, parmi les disciples du Seigneur Jésus, parce que Jésus lui faisait confiance. Et voilà c'était déjà annoncé prophétiquement dans le Psaume 41, verset 10. Et son accomplissement, nous pouvons lire cela dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, le verset 18. Il est écrit ceci, je lis pour nous tous. Verset 18 de l'Évangile selon Jean, chapitre 13. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Voilà. Donc lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, a dit que celui qui mange son pain, lui-même, il a repris ses paroles. Parce que il faut aller que les saintes écritures s'accomplissent. Donc Judas, vraiment, en faisant cela, le prophète roi David avait déjà vu cela. Maintenant, ces numéros qui vous permettent d'entrer en contact avec nous, oui, si vous voulez réagir, ces deux numéros par message uniquement pour aujourd'hui, vous pouvez réagir au 677 61 93 77 ou au 696 36 25 40. Je reprends 677 61 93 77 ou le 696 36 25 40. Nous sommes en train de nous intéresser à ces versets qui annonçaient la première venue du Seigneur Jésus avant d'entrer de plein pied dans ces prochaines venues. Nous avons déjà parlé, bien sûr, de l'une de ces venues, la troisième particulièrement, à savoir la grande tribulation qui va directement précéder la venue du Seigneur Jésus-Christ pour juger les nations et établir son règne sur la terre. Et après, nous allons nous intéresser à sa deuxième venue. Nous allons lire également dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 11, à partir du verset 12 au verset 13. Oui, le prophète Zacharie a également dit beaucoup de choses en ce qui concerne la première venue du Seigneur Jésus. Je lis ceci à partir d'ici pour nous tous. Je dis bien Zacharie pour ceux qui notent. Chapitre 11, les versets 12 et 13. Je lis. Je l'ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Ils pèsèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetais dans la maison de l'Éternel pour le potier. Voilà, ici là, la Bible nous parle de cette somme qui va être donnée pour pouvoir acheter le Seigneur Jésus. Et nous allons voir son accomplissement dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce que Judas a demandé pour pouvoir livrer le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 3. Regardez quelle exactitude, mes amis et bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit ceci, je lis pour nous tous l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 3. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris des remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Vous voyez l'accomplissement. Regardez comment progressivement les choses s'accomplissent avec une exactitude étonnante. Nous allons également lire dans le Psaume 22. Écoutons ce qui est écrit, Psaume 22. Nous allons d'abord lire le verset 17. Il est écrit: ils ont percé mes mains et mes pieds. Voilà. Nous allons rester dans le Psaume 22. Nous allons lire le verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Voilà. Nous sommes toujours dans le Psaume 22. Et nous allons lire également le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici là, c'est le roi David qui annonce de façon prophétique tout ce qui va arriver au Seigneur Jésus des centaines d'années avant que cela ne s'accomplisse. Et tout cela s'est accompli dans le Nouveau Testament. Oui, par exemple, si nous restons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, le verset 35, il est écrit ceci, que je me charge de lire pour nous tous. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils ont partagé mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Vous voyez l'accomplissement de cette prophétie de Psaume 22. Et le verset 39, il est écrit: les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Voilà, lisez toute la suite. Les gens se sont moqués. Et ce que le prophète David avait annoncé. Et si nous lisons dans les Évangile selon Jean, chapitre 19, il est écrit ceci au verset 24, que je me charge de lire pour nous tous. Jean 19, 24, il est écrit: mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Nous avons lu dans le Psaume 22 qu'ils m'ont percé. Le roi David, ce n'est pas de lui qu'il parlait, il parlait de Jésus Christ. Vous voyez comment les choses sont en train de s'accomplir depuis la naissance, avant que Jésus même ne vienne au monde, sa vie jusqu'à la trahison même dont il sera victime, et nous sommes en train d'évoluer progressivement même jusqu'à la mort et la résurrection. Alléluia. Vraiment, notre Seigneur est vivant, sa parole est vivante et elle est la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Il est écrit ceci: parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Amen. La Bible nous dit que Jésus va être mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe l'annonce 700 ans environ avant que cela ne s'accomplisse. Et toujours dans ce livre de Ésaïe, le verset 9 nous dit ce que nous avons lu tout à l'heure, qu'il n'y a pas une défraude dans sa bouche. Ou bien particulièrement, la première partie du verset va nous dire: on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Voilà, la Bible nous dit que Jésus, de façon prophétique, va mourir au milieu des malfaiteurs et que on va même le mettre que dans la tombe des riches. Voilà ce que Ésaïe a annoncé environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ sur la terre comme être humain. Et nous allons lire son accomplissement dans les évangiles. Par exemple, si nous prenons l'évangile selon Marc, oui, nous varions maintenant. Si nous lisons, par exemple, l'évangile selon Marc, chapitre 15, le verset 27, il est écrit ceci. Je lis pour nous tous. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Verset 28. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Alléluia. Vous voyez l'accomplissement. Et la Bible nous dit que un certain riche Joseph d'Arimathée va venir et il va demander le corps du Seigneur Jésus. Et ça va vraiment coïncider avec ce que nous avons lu, qu'il a été mis dans le tombeau des riches. Que c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Nous allons lire dans le Psaume 69, le verset 9 d'abord, le verset 9 d'abord, et puis le verset 22. L'émission C'est la vérité qui libère. Nous sommes en train de nous intéresser à certains versets prophétiques qui annonçaient la première venue du Saint Jésus. Et c'est pour que vous puissiez maintenant accepter que ce qui sera dit plus tard concernant sa deuxième venue est la vérité, pour que vous ne doutiez point. Parce qu'on peut douter même, oui, même de façon discrète, oui, certains versets de la Bible, parce qu'on n'est pas suffisamment éclairé même sur certaines choses concernant la première venue du Seigneur Jésus, puisque Jésus est au centre de tout ce qui sera dit plus tard. Nous sommes dans le psaume 69, le verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. Voilà un verset prophétique qui a annoncé que Jésus, à un moment donné, va devenir un inconnu pour ses frères, un étranger. Les Juifs l'ont rejeté en disant que nous ne le voulons pas. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Ils ont dit, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Ils ont préféré plutôt, oui, particulièrement César à la place du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez les évangiles, vous allez trouver cela là-bas. Et le verset 22 nous dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent des vinaigres. Pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent du vinaigre. Voilà ce que ce psaume de centaines d'années annonce. Et ça va s'accomplir avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là dans l'évangile selon Jean, chapitre 19, à partir du verset 28. Il est écrit ceci que je me charge de lire pour nous tous. Relevez l'accomplissement de cette prophétie. Oui, l'évangile selon Jean chapitre 19, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Il est écrit ceci que je me charge de lire pour nous tous. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissa la tête et rendit l'esprit. Vous voyez quelle exactitude? Vous voyez vraiment comment les choses s'accomplissent avec une exactitude déroutante. Tout simplement parce que Dieu ne peut se tromper. Et Dieu ne ment jamais. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, une fois de plus, cette fois-ci au chapitre 50, le verset 6. Il est écrit ceci. Je lis pour nous tous. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Voilà. Donc, Jésus-Christ, vous savez, on l'a giflé, on a craché sur lui. Vous pouvez prendre, ne serait-ce que cette portion de Sainte Écriture, si vous, vraiment, comme même un devoir, pour chercher son accomplissement dans les évangiles. Oui, chercher dans les évangiles où Jésus a été giflé et là où on a craché sur lui. Et Ésaïe a annoncé cela environ 700 ans avant que cela ne s'accomplisse. Pour vous aider, cherchez cela dans l'évangile selon Matthieu chapitre 27. Et maintenant, nous allons lire dans le psaume 16. Le verset 10, il est écrit ceci. Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. En fait, ce verset prophétique parle de la résurrection du Seigneur Jésus. À savoir que Jésus ne doit pas rester dans le séjour des morts comme les autres morts. Et Jésus-Christ, bien entendu, est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Le Nouveau Testament en est rempli. Ici, ce sont les versets que nous sommes en train de chercher. Si nous lisons, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 24, il est écrit. Actes 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Et si vous lisez la suite, c'est ce que David avait dit. Alléluia. Maintenant, même si on s'arrête, vous voyez, à partir de la naissance du Seigneur Jésus, sa vie, tout ce qui va se passer, sa mort, sa résurrection, tout cela avait été annoncé d'avance avec une exactitude étonnante et même déroutante. Alors, si la première venue du Seigneur Jésus a été annoncée dans les moindres détails et que tout s'est accompli, rassurez-vous, que vous le croyez ou pas, tout ce que nous allons voir également va s'accomplir dans les moindres détails et tout ce que nous avons également vu concernant la grande tribulation. Voilà. Donc, si vous étiez encore parmi ces personnes qui doutiez encore, il est temps pour vous maintenant de vous repentir et de ne plus douter, car Dieu ne ment jamais. Jésus-Christ est la vérité. Et quand Christ parle, si les prophètes ayant parlé de sa part, tout s'est accompli. À plus forte raison, lorsque c'est le Christ qui parle. L'émission, c'est la vérité qui libère. Vous pouvez réagir au 677 61 93 77 ou au 696 36 25 40. 677 61 93 77 ou le 696 36 25 40. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'enlèvement, la prochaine venue du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile selon Jean, chapitre 14. À partir du premier verset au verset 3, il est écrit ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il revient pour nous prendre afin que là où il est, nous soyons aussi avec lui, du moins ces personnes qui croient en lui. Donc Jésus revient. Chercher ce qui lui appartiennent. Jésus-Christ revient. Il revient. Comment ça va se passer exactement? Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il est écrit ceci. 1 Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. À partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia et Amen. La Bible nous dit que lorsque la trompette de Dieu va sonner, ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire qui sont morts vraiment comme enfants de Dieu véritable, nés de Dieu, nés de nouveau, vont d'abord ressusciter. Et ensemble avec les chrétiens qui sont encore vivants sur la terre, ils vont être enlevés, aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le Seigneur va les amener dans le ciel. Et ils seront pour toujours ensemble. Alléluia et Amen. Voilà la deuxième venue du Seigneur Jésus et ça ne concerne que ces personnes qui sont nées de nouveau, qui sont en Christ Jésus-Christ. Et je suis sûr que beaucoup ne vont pas participer à cet enlèvement. Oui, il y aura beaucoup qui se disent chrétiens qui vont rater. Il y aura des grands prophètes, des archibishops, des révérends et autres qui vont rater parce que la Bible dit ceux qui sont en Christ, pas ceux-là qui parlent de Christ mais qui sont en Christ. Maintenant, une question. Est-ce que vous êtes véritablement en Christ? Ou vous êtes tout simplement ces personnes qui se contentent tout simplement de confesser Christ de la bouche? Ou bien vous êtes tout simplement ces personnes qui essaient d'exploiter le Christ? Je veux dire, entre guillemets, qui essaient de profiter tout simplement de certaines choses de la part de Christ, à savoir la guérison, la protection et les toutes sortes de bénédictions matérielles. Vous pouvez profiter de ces choses-là. Mais si la trompette sonne, vous allez rester si vous n'êtes pas en Christ. Alors, c'est pour vous interpeller maintenant. Si vous-même vous êtes convaincu que Christ n'est pas dans votre cœur, que vous êtes seulement un chrétien de bouche, peu importe le nombre de temps que vous avez passé dans votre religion, peu importe votre titre religieux, il est temps maintenant de dire: Seigneur, je veux être en toi. Je ne veux pas seulement te goûter. Je ne veux pas seulement parler de toi. Je ne veux pas seulement profiter de certaines choses venant de ta part. Je veux être en toi. Afin que lorsque la trompette va sonner, que ce soit le jour et la nuit, que je sois enlevé. Ou bien qu'il arrive même que si je meurs entre temps, que lorsque la trompette va sonner, que je sorte de la tombe et que j'aille à ta rencontre avec les bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux. Et la Bible nous dit ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Toujours en rapport avec l'enlèvement de l'église du Seigneur, son épouse, l'ensemble des chrétiens authentiques, nés de Dieu, nés de nouveau, nés de son esprit. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52 et 53, il est écrit: ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Alléluia. Car il faut que le corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. La Bible nous dit que tout cela va se passer en un clin d'œil. Dans le temps de clignoter l'œil, tout cela va se passer. La résurrection des chrétiens authentiques et le changement des chrétiens vivants encore sur la terre pour revêtir le corps incorruptible. Parce que le corps que nous avons présentement est un corps corruptible, c'est-à-dire c'est un corps qui est fait de chair et de sang. Et la Bible nous dit que la chair et le sang n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque cette dernière trompette va sonner, le Seigneur va donner un corps glorieux aux chrétiens qui sont déjà morts, qui vont ressusciter, et aux chrétiens qui sont encore vivants sur la terre. Le Seigneur va les changer également en leur donnant ce corps glorieux, ce corps qui est adapté pour vivre dans le ciel, dans le milieu céleste. Et ils vont maintenant être enlevés, et tous ensemble, ils vont s'envoler dans les airs, dans les cieux, pour vivre pour toujours avec le Seigneur. Et ceux qui vont rester sur la terre ne seront que ceux-là qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce sont ces personnes qui vont maintenant subir la colère de Satan sur la terre. Vous voyez, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'un jour, nous qui espérons en Christ, nous allons revêtir un corps qui est comme ce corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ ressuscité? C'est-à-dire ce corps qui ne pourra plus tomber malade. Ce corps qui ne doit plus souffrir. Ce corps qui peut passer entre les murs. Lorsque le Christ ressuscité apparaît au milieu de ses disciples, les disciples avaient barricadé toutes les portes parce qu'ils avaient peur. Mais Jésus s'est retrouvé au milieu d'eux en disant: c'est bien moi. Il n'avait plus besoin de passer par la porte parce qu'il avait un corps glorieux. Et c'est le même corps glorieux qui permet au Seigneur Jésus d'être enlevé dans les airs pendant que ses disciples le voyaient s'en aller. Donc, pendant la résurrection, les chrétiens vont avoir ce même corps qui les permet de se déplacer sans avoir besoin de fusées ou de n'importe quel moyen de transport que ce soit que nous connaissons, parce qu'ils ont un corps désormais glorieux qui n'est plus soumis. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Pour rien au monde je ne raterai pas cela, parce que ça sera merveilleux. Et toi qui es en train de souffrir, torturé par la maladie, ne t'en fais pas si tu as le Christ dans ta vie. Un jour, tout cela cessera. La Bible nous dit qu'un jour, la mort ne sera plus. Un jour, les souffrances, il n'y en aura plus, les deuils, les tristesses. Ce corps que tu as, naturellement, doit toujours être attaqué. Parce que ce corps a été maudit depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Eden. Et ce n'est que lorsque le Christ reviendra que ceux qui espèrent en lui vont revêtir un corps nouveau, adapté pour vivre dans les lieux célestes. Et ce corps qui n'est plus soumis aux lois de la nature, alléluia, ou bien à la loi de la pesanteur, et ainsi de suite. C'est merveilleux. Bien sûr que ceux qui n'ont pas accepté Christ, s'ils sont morts, lorsque nous allons enseigner sur la résurrection, si le Christ nous le permet, ces personnes qui n'ont pas le Christ vont rester dans la tombe et attendre le grand jour du jugement dernier pour être ressuscités et jugés et jetés dans le lac de feu où on va être tourmenté jour et nuit pour des siècles et des siècles. Si Dieu le permet, nous allons également y revenir en détail. Et dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dernier chapitre, et vers le dernier verset, il est écrit ceci. Apocalypse, vous pouvez chercher le dernier chapitre. Dans son dernier chapitre, que je vous donne comme devoir, je vais juste lire à partir du verset 10. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Alléluia. Je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Maintenant, les deux derniers versets. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alléluia et Amen. Vous voyez, le dernier livre de la Bible, les derniers versets concluent en disant, je viens bientôt. C'est Jésus qui dit, je viens bientôt. Donc Jésus revient. Que vous le croyez ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous êtes plutôt encouragés. Comme je le disais, lorsque nous avons commencé cet enseignement, en étudiant les prophéties bibliques, ce n'est pas juste pour avoir les connaissances, ce n'est pas juste pour bourrer nos têtes des connaissances bibliques, mais c'est pour prendre des décisions qui s'imposent pendant qu'il est encore temps. Alors toi, qui joues toujours, pendant que tu es encore en vie, profites-en en mettant de l'ordre dans ta vie. Parce que ceux qui sont morts Leur sort est déjà scellé s'ils sont morts dans les péchés. Mais toi encore, Dieu te donne une grâce exceptionnelle en ce jour, en te disant, répands-toi. Répands-toi de tes péchés, convertis-toi véritablement et accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et reçois son Esprit Saint et attends-le parce qu'il revient bientôt. Et toi qui dis que tu es un chrétien et tu mènes une vie qui n'a rien à voir avec la vie d'un enfant de Dieu, fais attention. Mets de l'ordre dans ta vie. Répands-toi. Répands-toi. Et sois véritablement réconcilié avec Dieu. Et vous tous qui êtes serviteurs de Dieu, qui passez votre temps à distraire le peuple de Dieu avec les choses inutiles, avec les choses de cette terre, sans les avertir, sans les parler de ce qui est imminent, à savoir la prochaine venue du Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous, repentez-vous. Cet enseignement doit être proclamé, proclamé encore, encore et encore dans les églises. Dans les églises. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Oui, il a dit qu'il faut que ces choses soient proclamées dans les églises. Donc, il faut que ce message soit prêché encore, encore et encore. Parce que c'est l'espérance des chrétiens. L'enlèvement, le prochain retour. Il faut que le monde soit averti. Soit averti. Et gloire au Seigneur parce qu'il a pris la peine d'ouvrir le voile. Afin que nous puissions un tout petit peu avoir une idée de ce qui nous attend. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité. Il dit toujours la vérité. Le dernier jour, personne ne pourra dire au Seigneur, « Oh Seigneur, je ne savais pas. » Non, non, personne. Jésus dit toujours la vérité. Il dit que si vous vous repentez, si vous vous convertissez, si vous vous soumettez à sa parole, vous allez être sauvés, vous allez être délivrés, vous allez vivre éternellement avec lui. Et le même Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, c'est le jugement, la perdition qui vous attend, le lac de feu, les tribulations qui vous attendent. Et c'est toujours Jésus qui dit cela. Et c'est la vérité également. Compte tenu du temps, nous allons nous séparer. Si Dieu le veut, nous allons continuer prochainement, nous intéresser toujours à ces textes prophétiques. Il y a tellement à dire à ce sujet qu'il faudrait des heures d'émission. Si vous avez des préoccupations, si vous avez besoin d'une oreille attentive pour pouvoir écouter vos problèmes et vous conseiller à la lumière des Saintes Écritures, sentez-vous libre sans protocole. Appelez à ces deux numéros que vous avez reçus qui vous seront encore communiqués juste avant que nous nous séparions. Si vous voulez vraiment des gens avec qui persévérer dans la foi, dans la simplicité en Christ, en nous efforçant de nous soumettre à sa parole. Sentez-vous libre également d'entrer en contact avec nous au travers de ce numéro. Nous allons vous guider, vous conduire là où il y a les bien-aimés avec qui vous pouvez prier et persévérer dans la foi en vous soumettant à la parole du Seigneur et en attendant son prochain retour. Nous prions. Seigneur, sois béni. Merci infiniment pour ta très sainte parole. Seigneur, il est écrit que tu confirmes la parole de tes serviteurs en permettant qu'il y ait des prodiges et des miracles. Que toute personne qui a écouté cette parole avec foi, n'importe où sur la surface de la terre, que cette personne soit visitée par ta puissance, cette puissance de résurrection qui t'a ressuscité d'entre les morts, que cette puissance agit dans la vie de cette personne et change sa vie pour toujours dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous qui avez écouté cette parole avec foi et qui croyez que la parole du Seigneur est la vérité, soyez bénis, soyez délivrés et soyez libérés de toutes vos chaînes dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que dans les jours à venir, que la grâce du Seigneur surabonde dans vos vies et que les témoignages abondent également pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses nous disposer afin que prochainement, nous puissions encore continuer sur la même lancée à nous intéresser à ces versets prophétiques, ces versets qui concernent notre futur immédiat et lointain. Reçois toute la gloire pour tout ce que tu feras maintenant et pour des siècles et des siècles, car toi seul es digne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Amen. Si Dieu le veut, retrouvons-nous sur cette même radio, même jour et même heure.
venez d'écouter la vérité qui libère, la vérité qui libère.
Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Pour tout contact ou pour tout conseil, n'hésitez pas d'appeler à ces deux numéros. D'abord le 677 61 93 77 et aussi le 696 36 25 40. Je reprends. 677 61 93 77 ou aussi le 696 36 25 40. Vous pouvez précéder de 237 ces numéros si vous appelez hors du Cameroun. Connectez-vous aussi sur le site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Connectez-vous sur ce site et téléchargez tout ce qui vous intéresse gratuitement. Que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. À bientôt. Et que toute la gloire, les honneurs, les acclamations reviennent uniquement au Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Amen.